Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdivois et c'est l'heure de l'interview avec en distance monsieur Jacques Armand. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes maire de Saint-Agnan en Vercors et nous sommes aussi en compagnie de monsieur Cédric Fermont. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes directeur des stations de la Drôme.
C'est bien ça, oui.
Donc tous deux, vous êtes là pour nous annoncer une fête. Ça sera le col de Rousset en fête qui aura lieu le 30 et 31 août. Ça se passera donc sur la commune de Saint-Aignan et aux abords de ce col de Rousset avec ses stations, anciennes stations ou du moins stations du ski toujours. Et pour cela, il y a des propositions d'animation pour ce week-end à l'adresse du grand public. Alors pour vous, c'est aussi une transition de cet été à l'automne qui arrive.
Oui, bah écoutez, pour ce qui est de la commune de Saint-Agnan, la station du Col de Rousset, elle a bientôt 100 ans, donc elle, du moins la pratique du ski a commencé fin 2028, on en retrouve trace dans le journal du Divois, où il y avait une organisation qui se mettait en place. Donc ça, c'est une date de départ. Et ensuite, l'idée a fait son chemin, puisque cette année, on est sur le 60e anniversaire du premier télésiège, de se dire, bon, ça mériterait quand même qu'on parle un peu de cette histoire, puisque c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes de territoire, au pluriel, aussi bien ceux du Vercors que du Divois, puisque la station, elle a pour caractéristique, comme tous les cols souvent, d'être un petit peu un lieu d'échange et de rencontre au départ, une porte d'entrée ou une porte qui se ferme d'un côté et qui s'ouvre de l'autre, un trait d'union. Donc il y avait une volonté il y a 60 ans politique de la commune de Die et de la commune de Saint-Agnan de développer cette station et au-delà de ces deux communes, ces deux territoires qui historiquement sont en relation, qui le sont pour des tas d'activités. Et le col en est un peu le symbole à travers le loisir et le tourisme. Donc l'idée, c'était un peu de rappeler cette histoire. Elle est toujours présente, bien présente. Il y a beaucoup de Divois qui viennent au col. Voilà. Et donc nous, la deuxième idée qui a fait son chemin, c'est au-delà de cet aspect rappel anniversaire de 60 ans, c'est de mettre en place la première édition de la fête de la station qui sera le dernier week-end d'août, en espérant qu'il y en ait d'autres, c'est un peu le but. C'est la fin de la saison d'été et c'est le début de la perspective de la saison d'hiver puisque ce genre d'activité est marqué par la saisonnalité et par la polyactivité pour ceux qui y travaillent souvent. Voilà, pour pointer un peu le cadre un peu plus historique et quelle est l'intention de la commune à travers tout ça et les pics qui aujourd'hui l'acteur, puisque le département avait un rôle d'investisseur au départ et l'exploitation était gérée par les communes, un rôle aujourd'hui beaucoup plus central. Et la commune, bien sûr, continue à être partenaire. Donc, j'en profite pour saluer tout le travail qui est fait par le département et par l'EPIC pour le développement de ces stations qui, aujourd'hui, ont l'avantage de s'appuyer sur deux saisons pour être un peu plus, on va dire, ouvert et prendre en compte d'autres pratiques. Voilà. Donc, le rappel du contenu, ben, je laisserai Cédric plus le faire dans le détail sur les 2 jours, on complétera s'il faut de ma part, mais c'était pour poser un peu le cadre de pourquoi cette fête, pourquoi ce éclairage sur les 60 ans, et aujourd'hui nos communes et notre territoire.
Monsieur Fermont, alors vous êtes directeur des stations de la Drôme, sur le plateau du Vercors notamment, qu'en est-il de ces conditions aussi, des stations, des autres stations, est-ce qu'il y a des similarités d'évolution, de transition?
Chaque station a ses spécificités. Sur la Drôme, on a 6 sites qui sont gérés par le département via les pics des stations de la Drôme. On a 3 sites alpins, on a des sites nordiques sur lesquels on pratique du ski de fond, de la raquette, du chien de traîneau. Donc, j'ai envie de dire, chaque site a ses spécificités. Au col de Rousset, ce qui est particulier, c'est que c'est un site qui est vraiment à cheval sur les deux saisons, c'est-à-dire sur la saison d'hiver, qui était la station de ski historique, hein, où on pratique effectivement le ski depuis près d'un siècle au col de Rousset. Ça était parmi les stations précurseurs en France, hein, au niveau du développement du ski et du développement des remontées mécaniques, où on a vu naître les premières remontées, même avant la Deuxième Guerre mondiale. On avait déjà des systèmes de téléski par câble qui étaient en place sur la station. Donc cette histoire du ski, elle est ancienne, elle se poursuit aujourd'hui, mais depuis une vingtaine d'années, il y a eu un vrai coup d'accélérateur sur la diversification des activités, et notamment sur l'été, avec aujourd'hui une station qui est vraiment à cheval sur ces deux saisons, des hivers qui sont beaucoup plus incertain en termes d'activité avec les effets du changement climatique et l'impact sur l'enneigement, et des saisons d'été qui sont en développement quasiment chaque année avec des activités qui sont beaucoup plus stables. Voilà, donc dans cette volonté de développer les stations, en fait, l'idée, c'est de les asseoir sur plusieurs pieds, c'est-à-dire sur les activités de loisirs. Ça, c'est le cœur historique des stations sur le ski. Ça s'est développé aussi sur d'autres activités comme le vélo, les trottinettes, la luge sur rail, la randonnée. On est sur des activités de loisirs. Mais on les fait aussi évoluer, et c'est notamment le sujet de la fête du col de Rousset. L'idée, c'est aussi de faire évoluer ces stations vers plus d'événementiel, de culturel, d'animation. D'où la volonté de créer avec les acteurs de la station, la mairie, mais aussi les commerçants de la station qui sont fortement impliqués dans cette organisation, via notamment une association des Amis du Col de Rousset qui regroupe aussi les propriétaires de logements de la station. Donc voilà, il y a une vraie volonté collective d'avancer sur de l'événementiel et qui permettra effectivement à la fois de redynamiser un peu l'image et puis de fédérer aussi les territoires et les populations locales autour du site.
Pour cette illustration de ces possibilités d'occupation et d'animation pour le public, il y aura à partir de samedi 30 août et à 11h des ateliers de fabrication de cerfs-volants. Ça sera aussi l'une des démonstrations. Il y aura également des expositions aussi de cerfs-volants. Et en journée, il y aura des balades accompagnées de pilotes du télésiège. Ça sera à 17h. Et il y aura aussi des démonstrations d'évacuation, initiation au biathlon à 18h toujours avec le SF.
L'école du ski français, hein, donc, oui. C'est l'école du ski, c'est le syndicat du col de Rousset, syndicat local qui regroupe les moniteurs de la station et qui sont investis sur la mise en avant du biathlon. Alors il faut savoir que le biathlon, c'est une activité qui par essence aujourd'hui est une activité 4 saisons. Elle se pratique sur la station du col de Rousset et sur le stade de biathlon Raphaël Poiret qui est juste à côté, toute l'année, c'est-à-dire l'hiver avec les skis et puis printemps, automne, été avec des skis à roulettes sur les pistes de ski. Voilà. Donc c'est une façon de mettre en avant cette activité qui est portée par le col de Rousset.
À 19h, il y aura ce repas du terroir avec des ravioles, des grands goulets et nougat glacé. Donc, ça sera avec une réservation conseillée pour 15€. Et il y aura des quoi. Il y a des coordonnées pour joindre hein, cette organisation. Je mettrai le lien du site sur la page de l'émission. Alors, en journée, il y a ces ateliers, mais en parallèle, est-ce qu'il y a aussi une occupation libre pour le public? Est-ce que il peut y avoir des promenades. Qu'est-ce que le public peut faire au-delà de ces ateliers ou ces démonstrations?
Alors, sur le week-end, c'est-à-dire du 30-31, samedi, dimanche, la station est ouverte au public en format été. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine d'activités qui sont proposées sur la station. VTT, trottinette de descente, des balades avec des montées en télésiège sur la montagne de Beur. On a également le stade de biathlon qui propose un certain nombre d'activités. Tout ça est consultable sur le site internet des stations de la Drôme, lesstationsdelaDrôme.fr. Voilà, donc on a au-delà des activités qui sont propres à l'événement, on a aussi tout ce qui est proposé dans le cadre des activités ouvertes par la station.
Monsieur Armand, vous, en tant que maire de Saint-Aignan, quel est l'apport du col de Rousset pour votre village ?
L'apport, d'abord, c'est un lieu de vie aussi. Hein. Il y a 150 appartements. C'est un hameau, des hameaux de Saint-Aignan, mais c'est un gros hameau. La commune de Saint-Aignan est très grande, hein, en territoire, parce qu'elle fait 84 km², c'est une des plus grandes de la Drôme, avec la particularité donc, d'être tout en longueur, avec le début au col du Rousset, presque chez Saint-Martin-en-Vercors, et tous les contreforts autour, notamment en direction du Vémont, donc avec une grande partie en territoire classé, à travers la réserve et autres. Et le col du Rousset, pour nous, c'est une porte d'entrée aussi par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est un lieu de vie, il faut le rappeler, il y a des commerces. Donc c'est un pôle économique et touristique pour la commune, c'est un pôle économique et touristique, et un pôle d'emploi très important puisque ça emploie 80 personnes. Donc il y a des enjeux sociaux et économiques, et au-delà des enjeux, bien évidemment, ça veut dire les écoles, l'école derrière, et tout un tas d'activités qui s'y rattachent. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. La polyactivité, quand je regarde tous ces emplois qui sont soit dans la station par les pics, soit par les commerces et autres, la grande majorité, ce sont des personnes pour qui la station leur permet de rester sur ce territoire en ayant cette activité pour partie l'hiver, majoritairement, et d'autres activités agricoles et tout autre sur les autres saisons. Voilà. Donc, c'est un pôle d'attractivité important et la commune y est d'une part attachée et très attentive.
Cette transition de sport d'hiver à animation ou sport d'été, ça nécessite aussi un matériel, des accessoires. Est-ce que la commune et la station de Rousset adaptent aussi son système économique en fonction des saisons ? Est-ce qu'il y a un apport aussi pour soutenir hein, ce commerce, par exemple ?
Je dirais que c'est deux saisons différentes. L'hiver, si vous préférez, la station, c'est l'équipement sportif de proximité pour les Drômois, puisque 80% de la fréquentation, ce sont des Drômois. Donc l'hiver, elle s'inscrit dans un schéma d'activité de loisirs de proximité. L'été, elle n'a pas le même rôle. Elle s'inscrit, les Drômois y viennent, mais c'est un peu moins vrai, parce qu'elle s'appuie à ce moment-là sur un bassin touristique beaucoup plus important, notamment du Livois, où là, la fréquentation est beaucoup plus sur des personnes qui ne sont pas forcément drômoises, qui recherchent de l'activité et de la montagne. Le drômois, il vient à la station pour de l'activité, mais il peut aussi y venir simplement parce qu'il a envie d'y venir. Voilà. Je pense que elle ne remplit pas le même rôle social l'été et l'hiver, elle n'a pas la même vocation. Ça peut paraître surprenant, mais c'est une réalité. Voilà. Et du coup, l'élément aussi important, c'est le télésiège, parce qu'il a la vertu, il y a bien longtemps que lui, il est quatre saisons, et il y a bien longtemps qu'il n'est pas dépendant de la neige, puisque c'est un moyen de transport uniquement, qu'il y ait de la neige ou pas, ce n'est pas le sujet.
Monsieur Fermont, en tant que directeur des stations, cette transition de saison a toujours eu-t-elle lieu ?
J'ai envie de dire... comme disait Jacques précédemment, le télésiège fonctionne l'été de longue date. Donc, ça veut dire que c'est une station qui est à cheval sur les deux saisons depuis presque la création du télésiège, c'est-à-dire en 1965, je crois déjà, il avait tourné sur l'été. Donc ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est que c'est l'accélération du phénomène. C'est-à-dire, dans les années 2000, on avait mis en place un certain nombre d'activités. Et principalement le bike park et puis le télésiège pour les piétons, ça s'est limité à ça. En 2018, il y a la luge sur rail qui a été installée, qui a été un catalyseur important des activités d'été. Hein. Ça fait partie des éléments phares de la station sur cette période-là. Et puis depuis 2020-2021, On est passé aujourd'hui à une quinzaine d'activités qui sont proposées sur la station en lien avec le stade de biathlon, là, l'espace Poiré. Voilà, donc on a une vraie, aujourd'hui, on a un vrai panel d'activités qui permettent vraiment de satisfaire un large public, c'est-à-dire à la fois les personnes qui sont en recherche de balades, de contemplation, de détente, de ressourcement. Voilà, ce public-là, il trouve son compte. On a un public un peu plus sportif autour de la randonnée, du VTT de descente, qui là également, ou du biathlon, qui également peut se satisfaire sur nos sites. Et puis, on a un public, et ça, c'est quand même une large majorité, un public familial, très touristique, à plus de 40% étrangers. C'est typiquement les familles néerlandaises qu'on retrouve dans les campings du Diois et de la vallée de la Drôme, hein, qui dans leur semaine ou leur séjour en tout cas cochent une ou deux journées en montagne et viennent chez nous. Et puis ces personnes-là font des activités famille, la luge sur rail, le tubing qui est une piste de glisse sur bouée qui fonctionne aussi très bien, voilà, et puis d'autres activités, on a un mini-golf.
Et samedi 30, à partir de 11h sur la journée, il y aura des ateliers de fabrication de cerfs-volants. Ça, c'est une association locale qui promeut cette fabrication.
Oui, et c'est ça, c'est une association qui est mobilisée pour la journée, donc qui va assurer à la fois l'accompagnement des personnes dans la création de cerfs-volants, et puis qui va aussi faire voler des cerfs-volants, notamment sur la montagne de Beur, en haut du télésiège, toute la journée. Donc ça devrait être, si les conditions météo sont favorables, ça devrait être assez magique, cet espace-là. Oui, on a beaucoup d'attentes auprès de cette animation. Oui.
Et puis il y aura aussi un jardin devant, donc ça sera des expositions de sculptures construites par qui ?
Par l'association, c'est l'association qui est en charge aussi de cette partie d'animation. Ouais. Un jardin de vent qui sera en place dans le cœur de station, qui sera visible facilement sans même avoir à prendre le télésiège.
Le vent, c'est aussi un phénomène très présent sur le plateau. Est-ce qu'il y a peut-être des intérêts à en tirer ?
Le vent, ça peut être... Enfin, pour le col de Roussé, effectivement, c'est une composante importante, le vent. On en tire des bénéfices, j'ai envie de dire, surtout l'hiver. Surtout l'hiver, pourquoi ? Parce que ça permet de maintenir des phénomènes climatiques de fun et donc de refroidissement de l'atmosphère qui permet de conserver la neige. C'est bien connu, hein, du col de Roussé, quand on traverse le tunnel, on est bien souvent dans le brouillard et le froid. Ça, c'est lié au vent. Et puis, on l'utilise aussi... de façon finalement assez innovante pour former des congères à l'aide de barrières à neige qui sont disposées sur le domaine skiable et qui permet de stocker et de constituer des stocks de neige extrêmement importants pour ensuite réenneiger à l'aide des dameuses, réenneiger cette neige sur les pistes de ski.
Et combien même est-ce qu'il y a des activités aéroportées telles le parapente?
Bon, alors il y a le parapente aussi, évidemment, il y a une aire d'envol hein, qui est en place sur la montagne de Beur, en haut du télésiège. Donc ça fait partie des activités du site.
Oui. Oui. Alors il y aura ces démonstrations, comme je l'ai dit, il y aura aussi à 17h cette balade accompagnée depuis le haut du télésiège. Donc ça permettra de découvrir un panoramique de cette station. Et c'est ouvert à tous ou alors il y a peut-être une limite d'âge, de disponibilité ?
Il n'y a pas de limite. C'est ouvert à tous et même aux personnes à mobilité réduite parce que le télésiège est praticable pour les personnes handicapées. Et ensuite, il y aura une partie de l'animation qui sera sur l'espace panoramique jusqu'au tap panoramique qui le long d'un cheminement qui est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Donc il n'y a pas de limite d'âge, c'est vraiment de 4 mois jusqu'aux personnes les plus âgées. Et ce temps sera encadré par un éco-garde du parc naturel régional du Vercors qui viendra
parler des paysages, de l'environnement au sens large des espaces naturels. Donc ça devrait être un temps très intéressant, avec l'accès qui se fera par télésiège à la montée et à la descente pour ceux qui le souhaitent entre 17 et 18 heures. Et puis ensuite, en retour pour les personnes les plus valides, un retour à pied avec une redescente dans le quart de station, à pied accompagné de l'éco-garde qui se fera plutôt entre 18h et 18h30.
Il y a aussi à 18h une démonstration d'évacuation du télésiège. Alors, quel est ce scénario? Est-ce qu'il est plutôt courant?
Heureusement non. Heureusement non, on n'a jamais eu à activer le plan d'évacuation du télésiège. Il faut savoir que donc, le télésiège est activé par de l'énergie, c'est le moteur électrique hein, sur la station. On a des moteurs thermiques de secours, si jamais on venait avoir des pannes d'électricité par exemple. Donc on a des moteurs thermiques qui permettent de faire fonctionner la machine. Mais en cas de dysfonctionnement des moteurs thermiques, il y a quand même possiblement une évacuation aérienne qui est verticale, qui pourrait être mise en place. Ça s'est produit hein, parfois dans d'autres stations. Hein. Quasiment chaque année, on a dans les Alpes françaises une évacuation verticale qui est mise en place. Donc on a du personnel formé pour aller sur les câbles et ensuite descendre les personnes via tout un dispositif de grimpe, en fait, hein, et qui permet de descendre les personnes au sol. Voilà, on a aussi parfois les hélicoptères de la sécurité civile qui peuvent être mobilisés dans ce cas de figure. Mais en tout cas, on est compétent et formé pour faire ces évacuations avec nos personnels. Et donc, c'est ce qui est proposé de présenter à 18h le samedi. On va simuler un arrêt de télésiège, des personnes sur le siège, et puis nos personnels qui iront les faire descendre au sol. Voilà, donc c'est spectaculaire, c'est intéressant de voir comment on procède avec ces techniques qui sont bien rodées par nos équipes.
Monsieur Armand, votre implication dans cette organisation et peut-être même de la station, ne serait-ce que l'entretien des sites naturels, est-ce qu'il y a un partenariat pour gérer ces espaces verts, les rendre accessibles aussi?
Alors, mon implication de en tant que maire, elle est de fait, on va dire. Elle est d'abord, si vous préférez, bon, nous, on a souhaité mettre avant l'aspect un peu commémoratif, ça c'est pour l'événement en lui-même, mais bon, moi je fais partie du conseil d'administration de l'EPIC, donc c'est l'EPIC qui en a l'exploitation, le foncier appartenant à la commune, et la commune, bien sûr, ce foncier s'inscrit dans une vision plus large qui est à porte d'entrée de la réserve, et donc la commune joue le rôle de maître d'ouvrage et de coordonnateur entre nos espaces naturels qui sont à proximité et une autre activité qui est très importante, et c'est notre rôle, et surtout là-dessus, en discussion avec les PIC, c'est sur le pastoralisme et toutes les activités agricoles que nous avons sur ce site, parce qu'historiquement, c'est un grand site de pastoralisme, d'où la fête de la transhumance au mois de juin. Il y a bien longtemps que... Voilà, donc se marie sur ce site des questions... d'agricole, de pastoralisme, des questions de tourisme, des questions d'habitat, voilà. Les questions naturelles, bien évidemment, on y travaille avec le parc, l'EPIC et l'ONF, qui est aussi un autre acteur, puisqu'on a beaucoup de forêts en soumis, ce qu'on appelle, autour du col du Rousset, dans le col du Rousset, qui sont propriétés communales. Donc, c'est tout un travail de partenariat. Donc, notre rôle, c'est de faire travailler ensemble et de participer avec nos moyens que l'on peut à toute la mise en place de ces activités et d'accompagner le département à travers l'EPIC au mieux de ses décisions et dans un but commun d'amener des services à une population locale.
Et puis il y a aussi certainement une collaboration avec le parc naturel.
Oui, puisque nous, on a, la commune de Saint-Aignan, on a plus de 40 000 hectares, 40% de la commune est classée. Hein, donc, voilà, on travaille au quotidien avec le parc sur plein de dossiers, bien évidemment, sur la réserve naturelle, sur un périmètre plus large, sur un ENS, un espace naturel sensible qu'on est en train de mettre en place entre le début de la réserve, ou pas des éconduits pour faire simple, et la station, donc ce sera un peu un sas d'entrée puisqu'on a quand même des flux rentrants, surtout l'été, de touristes qui vont sur la réserve. Et il y a besoin un peu de faire de la médiation. Et puis, on a aussi beaucoup de bêtes là-haut qui sont en pâturage, des moutons, des vaches, etc. Et ça nécessite donc que toutes ces pratiques puissent cohabiter dans le meilleur des mondes.
Toute la journée de ce samedi, il y aura aussi des jeux en bois et une exposition de photographies. Peut-on indiquer quel artiste ou quel photographe exposerait ?
Alors, c'est des vieux artistes, parce que ça sera des photos d'archives qu'on va exposer. Des photos d'archives justement sur la naissance du ski et la construction de la station. Ça sera principalement orienté là-dessus. Voilà. Donc, il n'y a pas d'artiste.
C'est une approche historique, cette exposition de photographie, de voir aussi l'évolution du matériel, des tenues.
Oui, c'est ça. Et puis des équipements de la station, l'évolution de la construction aussi de l'urbanisme et de l'habitat, hein, qui a été une composante importante de la création de la station, le percement des différents tunnels, hein, les deux tunnels successifs à la fin du 19e et puis ensuite au 20e, voilà, la construction des routes, la mise en place des refuges, etc. Enfin, là, il y a tout ça qui est illustré par un certain nombre de photos et qui mérite d'être mis en avant sur une date anniversaire telle que celle-là.
Nous passons au dimanche 31 août et pour cette journée de 9 à 17 heures, il y aura cette foire commerciale et artisanale, ça pour les professionnels, et aussi un vide-grenier ouvert aux particuliers. Il y a une inscription possible auprès de l'association Bienvenue au Col et je mettrai le lien sur la page du site où on peut te trouver sur votre site tout simplement. Alors, cette foire permet aussi de trouver les productions locales, mais à qui est ouvert aussi cette activité?
Alors, c'est une inconnue, je ne sais pas répondre à la question tout simplement, parce que c'est une première fois qu'on fait la foire. Et que c'est un peu le but étant de qu'elle soit ouverte sans trop de restrictions et que les personnes puissent s'inscrire voire au dernier moment. Donc, on est un peu dans l'inconnu dans ce domaine. On espère qu'il y aura du monde, tant pour la vie de grenier, etc. Voilà, j'ai des bons espoirs, mais c'est difficile à ce jour de dire réellement les activités qui seront, puisque j'en ai pas de connaissance.
C'est un peu à l'image de ce qui se passe avec la transhumance au col de Rousset.
Oui, voilà. Le format, c'est le même. Alors, oui. C'est en beaucoup plus antérieur. C'est beaucoup plus structuré, forcément, puisque là, c'est la première édition. Donc, c'est un petit peu, on va dire, un côté volontariste de dire ben, on acte le principe et puis au fil du temps, les choses se mettront en place, bien évidemment, elles se comporteront. Mais la transhumance est tellement ancienne que le marché est quelque chose de très structuré et il y a une intériorité, voilà, qui n'existe pas sur cette édition-là pour la fête de la station de fin août, puisque c'est la première fois.
Le vide-grenier, lui, est ouvert aux particuliers et donc là, c'est une réelle nouveauté pour vous?
Oui, bien sûr, c'est une première édition qui se passe. Donc, après... comme partout, et en particulier au col, tout est lié aussi aux conditions climatiques. Forcément, la fréquentation diffère s'il fait beau ou s'il fait moins beau.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est un élément qu'on ne trouve pas. Puisque dès lors qu'on a des activités de pleine nature, quelles qu'elles soient, hein, sportives ou pas sportives, on est météo-dépendant.
Il y aura toujours ce repas à midi proposé avec toujours ces ravioles des grands goulets et nougat glacé. Alors ça, c'est une spécialité locale. D'ailleurs, il y a un lien très fort entre les grands goulets et le col de Rousset ou Saint-Agnan.
Oui, voilà. Écoutez, oui, le col, il fait le lien avec le Vercors et le Diois. Et côté Vercors, forcément, ces deux sites qui sont extrêmement en résonance, puisque les Grands Goulets et le Col, ça fait partie des voies d'accès j'allais dire des sublimes routes du Vercors qui sont historiques. Voilà, donc c'était des moyens de communication et des moyens de relation. Et ces deux sites sont malgré tout en lien. Ils l'ont été historiquement, ils le sont toujours. Et prendre des revioles des Grands Goulets, c'est une évidence pour nous.
Et je revenais un peu aussi sur cette fête hein, de Col de Rousset. En fait, c'est une date qui se retendrait à se répéter, ou alors est-ce qu'il y aurait une évolution, une implantation peut-être plus permanente d'animation sur le plateau?
Bah écoutez, c'est difficile de répondre à la place des organisateurs et des acteurs, mais de ce que j'en ai compris, la volonté, c'est plutôt d'acter, de prendre date à le dernier week-end d'août, ou le dernier week-end de fermeture de la station d'été, et d'ancrer ça dans le temps, avec une thématique chaque année qui pourra être différente, avec un éclairage sur le passé, parce qu'il y a quand même des histoires. On a un ancien tunnel qui est magnifique aussi, voilà, et une perspective sur l'avenir. L'idée, c'est un peu la relation entre des saisons, mais c'est aussi la station d'hier, la station d'aujourd'hui et la station de demain. C'est ça le sujet.
Cette évolution, il y a un soutien. Bon, il y a la région, semble-t-il. Il y a aussi Avenir Montagne et France Relance. Ce sont deux structures qui amènent leurs compétences et un savoir-faire.
Le premier soutien au développement de la station, c'est le département qui est très très fortement mobilisé financièrement à la fois sur son fonctionnement et sur les investissements que j'ai commencé à effleurer tout à l'heure, à la fois sur la diversification des activités, mais aussi sur la consolidation du domaine skiable. Il y a des très gros investissements qui sont toujours portés en ce sens. Donc le premier investisseur, c'est le conseil départemental. Et puis on a également bénéficié sur certaines parties du plan d'investissement de la région et de l'État aussi via effectivement le plan Avenir Montagne.
D'accord. Ce sont deux structures d'État, hein, Avenir Montagne et France Relance.
Oui, alors c'était un programme de relance effectivement post-Covid qui avait été initié par le gouvernement qui aujourd'hui arrive à sa fin, hein. Concrètement on est sur des bouts d'enveloppe là, mais qui nous ont permis d'avancer sur des projets significatifs, notamment la rénovation du stade de biathlon Raphaël Poiré qui a été soutenu via ces programmes et qui a permis de remettre aux normes l'intégralité du stade. Il reste encore des travaux à faire cet automne. Et puis la construction à venir d'un bâtiment, les premiers coups de pelle vont avoir lieu en septembre, un bâtiment d'accueil sur le site qui permettra d'accueillir les groupes, notamment les écoles, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui viennent sur le secteur, et aujourd'hui on n'avait absolument rien pour les abriter. Donc voilà, il y a un bâtiment d'accueil qui va fleurir cet automne et qui devrait théoriquement être réceptionné dans l'hiver, en 2026.
Il y aura également l'ESF qui proposera toute une activité démonstration biathlon et tir à la carabine gratuitement. Voilà. Donc ça sera de toute la journée, de 10h à 17h, en plus du samedi soir qui est déjà indiqué sur le flyer, mais il y a un flyer actualisé qui va arriver.
Jacques Armand et Cédric Fermont, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps sur cette station de Col de Rousset, en fait, les 30 et 31 août. Toutes les informations, on peut les trouver également sur le site lesstationsdeladrome.fr. Je vous souhaite bonne soirée à vous.
Merci. Merci beaucoup.
Merci aussi.
Merci.